Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi de 11 décembre de 2020. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Les États-Unis empêchent l'Iran de se procurer le vaccin anti-Covid, selon le ministre iranien de la Santé. Les Palestiniens ont condamné la normalisation entre le Maroc et le régime israélien annoncée par le président américain Donald Trump. Sahara occidental, le Polisario condamne la décision de Donald Trump. Des positions saoudiennes à Marib tombent entre les mains du groupe de la résistance yéménite Ansarallah. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du chemin de fer Khaf-Herat reliant l'Iran à l'Afghanistan, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré « Les deux nations iraniennes et afghanes ont maintenu leur fraternité et leur voisinage tout au long de l'histoire et aujourd'hui le chemin de fer Khaf-Herat contribue au renforcement de ce lien. » Aujourd'hui est le jour de la paix, le jour de la miséricorde, le jour de l'ouverture pour les deux grandes nations afghanes et iraniennes, deux nations qui partagent la même racine, la même histoire, la même culture et la même religion. Et tout au long de l'histoire, elles ont su sauvegarder leur fraternité et leur bon voisinage comme les meilleurs alliés, a fait remarquer le président iranien Hassan Rouhani, qui s'exprimait en ligne à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du projet ferroviaire Khaf-Herat en présence de son homologue afghan Ashraf Ghani. Les États-Unis ont étendu leurs sanctions contre l'Iran aux canons financiers pouvant lui permettre de régler les factures afférentes à l'acquisition du vaccin contre le Covid-19, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Les États-Unis empêchent l'Iran de se procurer le vaccin anti-Covid, a-t-il souligné. Il a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient même inclus dans les sanctions imposées à l'Iran les appareils médicaux, médicaments et vaccins, dont celui contre le Covid-19, a souligné le ministre iranien de la Santé, M. Namaki. L'embargo imposé injustement et illégalement à l'Iran comprend également les canons d'échanges financiers pour payer les frais d'acquisition du vaccin contre le coronavirus, a-t-il précisé encore et d'ajouter « Je n'imagine pas qu'un peuple dans le monde ait fait face à des sanctions injustes contre le peuple iranien qui ont touché tous les segments de la vie, y compris la santé », a-t-il précisé encore. Les Palestiniens ont condamné la normalisation entre le Maroc et le régime israélien annoncé par Donald Trump, tout comme ils ont condamné les précédents accords de normalisation avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Dans la bande de Gaza, le Hamas a considéré la décision de normaliser les relations entre le Maroc et Israël comme un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne, selon le porte-parole du mouvement. Le porte-parole du Hamas, Azem Rassam, a déclaré que cette décision représentait un péché politique qui ne servait pas la cause palestinienne et encourage l'occupation à démentir et bafouer les droits de notre peuple. L'occupation profite de tous les cas de normalisation pour augmenter sa dose d'agressivité envers le peuple palestinien et ses intrusions dans les colonies de peuplement, a-t-il dénoncé encore. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, a dénoncé avec force la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Polisario et le gouvernement sahraoui condamnent, dans les termes les plus forts, le fait que le président américain Donald Trump attribue au Maroc ce qui ne lui appartient pas, à savoir la souveraineté sur l'ancienne colonie espagnole, a indiqué le ministre sahraoui de l'information dans un communiqué. Le représentant du Front Polisario en Europe, Baal Bachir, a pour sa part considéré la décision de Trump comme étrange, mais pas surprenante. Le représentant du Front a souligné que la décision américaine ne changera pas la détermination du Front à poursuivre la lutte. Après cette décision, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a une position inchangé sur le Sahara occidental, a déclaré son porte-parole Staffan Dujarric. Monsieur Guterres pense que la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, a ajouté le porte-parole lors d'un point de presse. Au Yémen, l'armée et les comités populaires ont repris le contrôle de deux nouvelles régions dans la province de Ma'arib à l'issue d'affrontements opposant les milices à la solde de la coalition d'agression saoudienne aux forces de l'armée yéménite. Ces dernières ont réussi à reprendre le contrôle de la plupart des régions de la province de Ma'arib, se rapprochant ainsi de la dernière zone de présence des forces pro-Hadi. Les forces de Sanaa ont lancé une offensive d'envergure contre les positions les plus importantes de la coalition d'agression saoudienne entre Jabal Mamor et la ville de Ma'arib. Selon les sources militaires dans la province de Ma'arib, les forces de Sanaa ont également attaqué les positions auprès des mercenaires pro-saoudiens dans la région de Idal Ahmad et Raoum. Ces positions sont actuellement contrôlées par les combattants yéménites qui projettent très probablement de lancer une offensive depuis ces endroits afin de prendre finalement le contrôle entier de la province pétrolifère de Ma'arib. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la Russie et ses partenaires au processus d'Astana continue à soutenir le dialogue syro-syrien, à rapprocher les points de vue entre les parties syriennes pour parvenir à des positions unifiées et formuler une même vision pour l'avenir de leur pays. Dans un point de presse de Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe et des Affaires étrangères, a précisé que le comité restreint du comité de débat de la constitution en Syrie avait achevé son quatrième round à Genève et qu'il était parvenu à des résultats considérés par l'ONU et les partis qui participent comme positifs. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez avec nous. On va vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La résistance palestinienne et yéménite a vivement dénoncé la normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien. Les Palestiniens ont condamné l'accord maroco-israélien adopté par le président américain Donald Trump comme ils ont condamné le précédent accord de normalisation avec les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. Dans la bande de Gaza, le mouvement de la résistance palestinienne, le Hamas, a considéré la décision de normaliser les relations entre le Maroc et Israël comme un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne, selon le porte-parole du mouvement. Le porte-parole du Hamas, Hazem Qasem, a déclaré que cette décision représentait un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne et encourage l'occupation à démentir et bafouer les droits de notre peuple. L'occupation profite de tous les cas de normalisation pour augmenter sa dose d'agressivité envers le peuple palestinien et ses intrusions dans les colonies de peuplement, a-t-il dénoncé. De son côté, le mouvement du djihad islamique de la Palestine a déclaré dans un communiqué que l'annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste usurpatrice est un nouveau revers pour le fragile régime arabe qui cherche à consolider les piliers de son régime tyrannique à l'aide de l'Amérique et du régime israélien. Ce que le régime au pouvoir au Maroc a fait, c'est trahir les principes fondamentaux de l'islam et d'aliéner de Quds la cause palestinienne. Le peuple marocain rejette fermement la normalisation avec le régime de Tel Aviv et le Maroc ne sera pas un foyer pour les sionistes, car le peuple marocain et ses forces politiques rejetteront la normalisation et l'affronteront, a précisé encore dans son communiqué le djihad islamique de Palestine. Le Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, a également considéré dans un communiqué la normalisation des relations du Maroc avec Israël comme un jour noir dans l'histoire du peuple et de la nation arabe. La résistance yéménite aussi a dénoncé cette normalisation. Mohamed Abdul Salam, le porte-parole du mouvement de résistance yéménite Ansar Allah, a réagi à cette annonce sur son compte Twitter. Toute normalisation des relations entre les pays arabes de l'Ouest et de l'Est avec le régime sioniste est condamnée et rejetée. Tout gouvernement qui prétend être arabe ou musulman n'a aucune justification pour établir des relations avec l'ennemi sioniste, a-t-il martelé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va revenir sur cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien annoncé par le président américain Donald Trump. Côté palestinien, la réaction à cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien a été immédiate. Les groupes palestiniens ont condamné cette décision du Maroc de normaliser avec le régime israélien. Il y a eu surtout en fait cette réaction du côté du Hamas, mouvement de la résistance islamique de Palestine, qui a en fait considéré comme un péché politique cette décision, un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne. Le djihad islamique de la Palestine aussi a dénoncé cette normalisation de relations entre le Maroc et le régime israélien. Il y a eu également deux trop réactions négatives de la part d'autres groupes palestiniens à cette décision. Côté Front Polisario, la réaction était aussi immédiate. Le Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui, a dénoncé avec force la décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, tout en disant que voilà, cette décision n'enlève rien à cette détermination du Front Polisario de vouloir en fait faire valoir ses droits. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Bruxelles, un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Monsieur Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et surtout bonjour à mon collègue, le professeur Dortiguier.
Vous l'avez dit, Luc Michel, l'autre merci. Invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est Pierre Dortiguier, philosophe français, spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Norostin, salutations à vos auditeurs et bien sûr à Monsieur, notre cher ami Luc Michel.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Oui. Première question, quelle évaluation portez-vous sur cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, s'il vous plaît?
Eh bien, il ne s'agit pas en réalité de quelque chose de surprenant, peut-on dire de nouveau au sens précis du terme, car c'est mettre simplement en droit, poser en droit, ce qui existait en fait. Je m'explique là-dessus, vous savez que la plus grande personnalité, peut-on dire, de la politique marocaine, qui est un homme de mon âge du reste, M. André Azoulay, qui a été, je crois, directeur ou vice-président pardon, de la Banque de Paribas à Paris, etc., qui a beaucoup fait pour les relations entre, qui est marocain, qui a beaucoup fait pour les relations entre la France, le Maroc, et lui-même, je crois, docteur honoris causa de l'université Ben Gurion, près de Barcheba, et a toujours œuvré, disons, pour des relations très, très solides entre l'entité sioniste et le Maroc. Je dois dire que je cite cette personnalité car elle est essentielle. Elle a même, comme vous dites, comme j'ai dit, une part importante dans la politique française. C'est le cas de sa fille qui est parisienne, qui est maintenant la directrice, je crois, de générale de l'UNESCO, après avoir été notre ministre de la Culture, vous savez, pendant 2 ans, en 2016-2017. C'est donc une grande famille qui a, si je puis dire, des racines internationales. Et c'est elle qui a, à mon avis, bâti, ou contribué à bâtir, disons, ces relations de fait entre le Maroc et l'entité sioniste. Et bien sûr, M. Azoulay, dont je parle, a souvent insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait deux États côte à côte. Mais si vous reconnaissez deux États, ça veut dire qu'un État reconnaît l'autre, voyez-vous. Donc, je parle d'État palestinien à côté de l'État israélien. Et donc, cette politique ne nous surprend pas. Et ce qu'a fait le président Trump aujourd'hui, c'est finalement de reconnaître aussi un État de fait, c'est-à-dire l'existence de ces liens pas privilégiés, de ces liens fondamentaux, disons. Je ne crois pas que M. Luc Michel me contredise là-dessus, qui connaît très bien l'Afrique, ces liens fondamentaux entre le Maroc et l'entité sioniste. Et bien sûr, cela peut se revêtir de des formes différentes. C'est-à-dire, il peut y avoir des protestations d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, au Maroc, en disant qu'il y a un lâchage des Palestiniens, etc. Mais chacun sait que ces relations sont profondément enracinées. Et même, je sais que si M. Rami était avec moi, avec nous, par exemple, il nous dirait même les liens très intimes qu'il y a entre la famille royale et l'entité sioniste.
Merci beaucoup, M. Dortigué. Parmi, en fait, les premières réactions à cette normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, il y a eu également celle du secrétaire général de l'ONU, Antonino Guterres. Antonino Guterres a une position inchangée sur le Sahara occidental, a déclaré son porte-parole lors d'un point de presse. M. Guterres pense que la solution à cette question peut toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, toujours selon son porte-parole, M. Staffan Dujarric. Luc Michel, venez d'entendre les explications de M. Dortigué. Votre lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais ma lecture, il faut constater une chose tout d'abord, c'est que le passage de Trump à Biden, ça va conduire à un certain nombre de réalignements de la politique américaine et des alliés des États-Unis, notamment avec la Turquie. Mais en ce qui concerne le Maroc, il n'y a rien qui va changer. Les liens avec le Maroc étroits ont été tendus sous Obama et Clinton avec l'administration américaine. Pompeo, lorsqu'il a trahi les réseaux Clinton pour devenir les réseaux d'Obama, pour devenir lui qui était le chef de la CIA d'Obama, pour devenir le State Secretary de Trump, il a apporté ses réseaux et donc la politique est la même. Trump, simplement, vis-à-vis d'Israël, je l'ai dit pour d'autres États, c'est le cas des Saoudiens, des Émiratis, il a rendu officiel ce qui était jusque-là une alliance honteuse. Maintenant, il faut comprendre ce qu'est le Maroc. Le Maroc, c'est la porte d'entrée des Occidentaux en Afrique. Tout d'abord, il y a l'alliance économique avec Paris. Il y a l'alliance diplomatique avec l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que depuis le début des années 80, le Maroc est candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Mais en même temps, il joue à l'Africain, à l'Union africaine. Troisièmement, c'est surtout la porte d'entrée de l'OTAN et des États-Unis. Le Maroc a été proclamé, je dis bien de l'OTAN et pas de l'Africom, le Maroc a été proclamé allié privilégié, c'est un statut de préférence de l'OTAN, et il s'apprête à abriter la super base de l'US Navy en Méditerranée qui va quitter l'Espagne pour partir au Maroc. À partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner de voir les Marocains. Les Marocains, depuis 60 ans, ont une position pro-occidentale, anti-africaine et anti-tchermondiste. En 2011, lorsque l'agression contre la Jamaïque de Kadhafi s'est faite, l'aviation marocaine a participé avec les Français, les Américains, les Britanniques au bombardement de Tripoli et de Sirte. Et dès le début des années 60, le Maroc, qui sert de joker occidental pour bloquer, à partir de 1960, l'Algérie. L'Algérie qui est au cœur du tiers-mondisme, où est la tricontinentale, c'est-à-dire l'interface entre les non-alignés de Tito et les soviétiques. Et à partir du moment où Kadhafi arrive au pouvoir en 1969, le Maroc mène une politique anti-Kadhafi, sabotant notamment les efforts de Kadhafi pour unifier le Maghreb. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce qui se passe actuellement. Il faut savoir encore une chose, c'est que le Maroc a été pris en otage dans la querelle entre Londres et Washington et Paris pour le contrôle de la CEDEAO. Macron avait un plan avec le président ivoirien Ouattara, c'était de s'emparer de toute la CEDEAO. Il faut comprendre que dans la CEDEAO, il y a 7 pays qui font partie du Commonwealth, en plus des pays de la France-Afrique. Et donc Macron a essayé de s'emparer du tout et de faire du projet de monnaie de la CEDEAO, l'ECO, le nouveau franc CFA. Dans la foulée du Brexit, Londres et Washington s'y sont opposés, et le Maroc, qui était le complice de Paris dans cette affaire géoéconomique, il s'est retiré prudemment sous la pointe des pieds, on ne l'a pas entendu, et donc les Marocains aujourd'hui, indépendamment de leurs liens privilégiés qui ont toujours existé avec Israël, ils n'ont rien à refuser aux États-Unis. Ça ne changera pas avec Joe Biden. Il ne faut pas s'imaginer de grandes choses dans ce domaine-là. Certains analystes, ce sont généralement ce qu'on appelle des théoriciens du complot, nous expliquent que les États-Unis auraient lâché Israël. C'est une galéjade. L'AIPAC, le lobby pro-israélien, il fait la pluie et le beau temps aux États-Unis. Joe Biden va compter avec l'AIPAC pour sa présidence. Et les deux hommes qui vont définir la politique étrangère des États-Unis sous Biden, c'est-à-dire Blinken, State Secretary, Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, ce sont des sionistes et des likoudniks enragés. Donc, ne pas s'entendre à ce que ça change. Et le Maroc, évidemment, il s'est inscrit là-dedans. Je vais terminer là-dessus pour ce premier jet. Je ne suis pas quelqu'un qui prend cette théorie que Trump serait en train de jeter une série de bombes ou de poser des mines sur la politique étrangère américaine. En Afrique, en tout cas, elle va aller en Israël dans la continuité de ce qui se fait d'ailleurs depuis une décennie.
Monsieur Dortillier, pour reprendre l'expression de Monsieur Luc Michel, en fait, le Maroc, c'est la porte d'entrée des Occidentaux, des Européens, des Américains en Afrique, avec cette, si vous voulez, officialisation, disons-le, des relations entre le Maroc et le régime israélien. Ce pays peut devenir la porte d'entrée d'Israël également au Maroc et partant du Maroc en Afrique. Il y a ceux parmi des analystes également, M. Dortiguet, qui avancent de cette hypothèse que la coopération, la normalisation des relations entre le Maroc et le régime israélien peut avoir comme conséquence également la présence militaire israélienne au Maroc et partant du Maroc en Afrique. Mais s'agissant du Maroc, c'est en fait ce qui rend délicate cette présence militaire, c'est que le Maroc, c'est le voisin de l'Algérie, M. Dortiguet. Corroborez-vous cette hypothèse, M. Dortiguet?
Oui, en effet. En tout cas, je retire deux points. Je veux indiquer deux points importants. C'est que la présence israélienne en Afrique est très importante. M. Luc Michel ne me démentira pas. Elle date même de l'époque de Lumumba, etc., du président Nkrumah. C'est-à-dire que les diplomates israéliens ont toujours eu, disons, une grande politique africaine. Elle avait été réclamée par Ben Gourion à l'époque. Ils s'y sont maintenus, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Et donc, cela ne changera pas pour les Israéliens. Qu'il y ait maintenant une présence militaire plus affirmée comme cadre, en tant comme politique d'encadrement militaire d'Israël au Maroc, je le crois volontiers. Et cela aura le visage, bien sûr, d'une lutte contre le terrorisme, mais aussi seront des conseillers militaires dans une lutte permanente, ou chronique, si je puis dire, si ce mot est entendu en français, entre le Maroc et l'Algérie. Je me rappelle très bien, et je le déplore, du reste, c'est une formule de De Gaulle ancienne qui a été, reprise par l'ancien ministre Père Fitte dans ses mémoires, en disant il faut que nous favorisions la lutte entre l'Algérie et le Maroc pour éviter qu'il y ait justement un Maghreb uni. Voyez ? Et ceci, bien sûr, peut paraître mesquin, mais c'est quand même, disons, le sens de la politique coloniale ancienne ou traditionnelle, si vous voulez, dont Israël n'est qu'un des aspects. Et je crois que de ce point de vue, la politique militaire israélienne, en effet, pourrait, non pas d'intervenir massivement, bien sûr, mais de former des cadres pour pouvoir justement présenter au Maroc, par exemple, auprès des Marocains, l'Algérie comme étant un pays qui veut démembrer le Maroc, qui veut, par le Polisario, qui veut, disons, enfin, qui, dont le Polisario étant présenté comme une création des services secrets algériens, etc. Bon, qu'il y ait bien sûr des vérités à droite et à gauche, des vérités démembrées, si je puis dire, qu'on a peine à reproduire comme un corps qu'on voudrait faire devenir un corps mort, qu'on voudrait faire devenir vivant, ça c'est possible. Mais je crois qu'en effet, cette reconnaissance officielle n'est que, une marche supplémentaire de la politique mondiale israélienne.
Monsieur de Luc Michel, c'est une reconnaissance de la politique mondiale israélienne ?
Israël a toujours eu, en tout cas, une politique africaine. Par exemple, c'est elle qui a lancé le démembrement du Soudan dans les années 60. Le Soudan, c'est la géopolitique qui explique ça. Lorsque vous venez du Proche-Orient, que ce soit d'Israël ou de Syrie, comme les Russes l'ont fait, la porte d'entrée de l'Afrique géopolitique, c'est le Soudan. Donc les Israéliens sont présents au Soudan. C'est eux qui ont conduit au démembrement entre les deux Soudans en 2010. Ils sont présents également en Éthiopie dans la question du Tigré. Ils sont présents en Somalie. Et ils sont présents en Afrique du Nord, principalement là-bas pour des raisons qui ne sont pas diplomatiques, mais qui sont les ventes. Israël est là un lobby militaro-industriel qui est un mini-lobby militaro-industriel sur le modèle américain. Et les...
Nous avons perdu, oui, semble-t-il malheureusement, notre liaison avec Bruxelles. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je suis toujours là. J'avais malheureusement un appel, je viens de l'interrompre. Donc, il faut qu'on...
Je vous en prie. Continuez, monsieur Luc Michel. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je suis toujours là.
Je vous en prie, la parole est à vous.
Ils n'ont pas suffisamment, donc, un marché intérieur pour justifier le grand lobby militaro-industriel américain, israélien, qui produit des avions, qui produit des chars, qui produit des drones, qui produit du matériel, des petits armements, etc. Et donc, ils ont besoin d'exporter. Où exporter? On n'exporte pas le matériel israélien en Europe, on n'exporte pas en Europe de l'Est, on l'exporte en Afrique. Il y a donc des ventes d'armes israéliennes un peu partout, et le cœur de ces ventes d'armes, c'est le Sud-Soudan. Il y a eu un scandale à la Knesset il y a 3 ans, où le Parti socialiste a révélé que le Likoud avait squatté ou vampirisé ce lobby militaro-industriel et mené de juteuses affaires, notamment en entretenant la guerre civile entre les factions politiques du Sud-Soudan. Voilà donc ce qui se passe. Il est bien certain que la reconnaissance avec le Maroc, elle va favoriser cette pénétration qui est une pénétration militaro-commerciale. Les Israéliens vendent aussi des produits de sécurité et ils vendent aussi ce qu'on ignore le plus souvent, ils vendent au régime africain des images satellitaires qui sont indispensables, vous soulignez, dans la lutte contre le terrorisme. Et les Israéliens fournissent aux Africains, d'ailleurs, ce que les Français ou les Américains ne veulent pas fournir. Voilà les données du problème. Il y a maintenant la dernière question, évidemment, qui est à part, c'est la question du Polisario et des rapports avec l'Algérie. Je dirais que c'est un sous-dossier de ce qui se passe. Et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara espagnol, c'est un peu un échange de bons procédés de l'administration Trump à partir du moment où les Marocains aident Trump à terminer sur un grand succès de politique internationale qui va lui servir à se profiler, d'ailleurs, pour la prochaine élection présidentielle dans 4 ans. Il faut donc comprendre maintenant l'Algérie, évidemment, il y a quelqu'un qu'on a oublié dans tout cela, et ça c'est la grande erreur de Trump ou des Américains, c'est que le plan, ce qu'on a appelé le Big Deal, ce plan du Likoud et de Trump, il sert de moyen de pénétration aux Russes. Les Russes, notamment, ont renforcé l'axe de la résistance, ils ont rétabli la parité stratégique. Ils se sont éloignés d'Israël, malgré la présence en Israël d'une très grande communauté de Juifs venus de Russie. Et il est bien certain que les Russes se tiennent ici aux côtés
des Israéliens face au Maroc, et ils vont bien entendu s'ingérer dans le problème, notamment dans celui du Polisario. D'autant plus que le Maroc a fait une erreur. Il y a actuellement une compétition géopolitique pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Je dis bien occidentale et pas orientale. L'amiral commandant les flottes d'Eurasie et d'Afrique, l'US Navy, s'est plaint de ce que les flottes russes en Méditerranée occidentale bloquaient les marines de l'OTAN. Et le Maroc participe à contrer la Russie, notamment avec cet établissement de la grande base de l'US Navy au Maroc, qui va se déplacer d'Espagne précisément pour le contrôle de la Méditerranée occidentale. Les Russes ne vont pas rester l'arme au pied. Le développement de la Russie comme une puissance maritime, c'est le grand plan du réarmement de la Russie de Poutine. Il y a un plan qui va se terminer en 2050. En 2050, la Russie sera revenue, comme au temps de Brejnev, avec des flottes russes sur les 6 océans du monde et une politique de puissance mondiale avec des bases, etc. Les bases, évidemment, en Afrique du Nord, c'est l'Algérie.
Merci beaucoup, Monsieur Dortigue. Une dernière question. Nous avons 2 minutes presque devant nous. Si j'ai bien suivi Luc Michel, cette normalisation, plutôt cette officialisation des relations entre le Maroc et le régime israélien, ça s'inscrit, si vous voulez, dans le cadre d'un projet bien calculé.
Oui, en effet. Ce projet très bien calculé vise, bien sûr, une sorte d'organisation africaine. Mais en même temps aussi, il y a un dernier, dans ces derniers moments, je dirais que cela aura une influence aussi sur la politique européenne, en particulier française. Il est certain que le Maroc pourra jouer plus librement un rôle politique et idéologique, si je puis dire, par exemple dans ce qu'on appelle en France la formation d'un islam, islam républicain, voyez-vous. C'est-à-dire, je pense que le Maroc va jouer un rôle, bien sûr, dans cette transformation des mentalités, en particulier dans une sorte de reprise en main des jeunes générations musulmanes d'Europe, voyez-vous, surtout en France. Et je crois que, disons que si, cette reconnaissance, en réalité, n'est que l'augmentation de degré de la structure assignée au Maroc, disons, de la tâche assignée au Maroc.
Luc Michel, nous avons encore une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient.
Il faut donc constater quelque chose, c'est que le Maroc a une vocation géopolitique pro-occidentale, aligné sur Washington, sur Paris, sur Bruxelles et maintenant sur Tel Aviv, et cela va avoir des conséquences en Afrique. Parallèlement à cela, vous l'avez brièvement souligné, le Maroc se présente, développe depuis les années 60 un espèce de panafricanisme conservateur. Il y avait notamment le groupe de Casablanca qui s'opposait au groupe de Monrovia avec Nkrumah et Lumumba au début des années 60. Et moi, j'ai participé à des colloques, par exemple, en Côte d'Ivoire, où Merci. Il y avait des intellectuels marocains. Ils venaient présenter ce panafricanisme. Ce panafricanisme, évidemment, il n'a plus de crédibilité à partir du moment où une telle politique est développée. Notamment, en particulier, il va avoir des conséquences. Le siège de l'Union africaine, il est à Addis Abeba. Et actuellement, les Israéliens, ils participent directement à la déstabilisation Merci. Du Premier ministre Abiy Ahmed en Éthiopie.
Merci infiniment, Luc Michel, géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à M. Pierre Dortigue, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui était en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous c'est une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Parole d'experts.
Le Le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi 8 décembre sur le site industriel du groupe Framatome pour soutenir la filière nucléaire civile et militaire dans le cadre d'une semaine consacrée à l'environnement et aux énergies décarbonées. Lors d'un discours à la forge de Framatome qui fabrique de gigantesques composants pour les réacteurs nucléaires, il a déclaré « Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire ». Emmanuel Macron compte faire du nucléaire un axe majeur de la politique climatique de la France. C'est l'énergie non intermittente qui émet le moins de CO2, a assuré M. Macron. Alors, si Paris insiste sur la volonté de développer son industrie nucléaire, pourquoi refuse-t-il ce droit à l'Iran ?
Ce qu'il faut dire, c'est que nous assistons en fait au triomphe du lobby nucléaire. Il y a 40 ans, la position écologiste, c'était de refuser le nucléaire. Vous vous souvenez des manifestations, des actions contre les centrales nucléaires ? C'est une énergie qui est polluante. Et effectivement, pour évacuer les déchets nucléaires, on en a pour des millénaires. Et quand il y a une catastrophe, c'est Tchernobyl, c'est Fukuyama, etc. Donc ça peut. Il y a eu une pré-catastrophe à Three Mile Island aux États-Unis il y a de nombreuses années. Donc ce n'est une énergie qui n'est ni sûre ni non polluante. Et le lobby nucléaire a réussi à vendre ça comme l'énergie propre de l'avenir, ce dont Macron se fait le champion. Il choisit donc la filière nucléaire pour le développement de l'énergie, et c'est important, mais également, il lie le nucléaire au développement de la puissance militaire de la France. Il a notamment annoncé qu'il allait créer un nouveau porte-avions nucléaire pour remplacer le Charles de Gaulle, et ça s'inscrit dans le redéploiement actuel de l'impérialisme français qui veut devenir une puissance maritime mondiale. Quand on voit de telles déclarations, évidemment, il faut constater qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et de double langage. Tout d'abord, c'est le refus de partager la technologie du nucléaire. Il y a d'ailleurs une comparaison intéressante entre Areva, qui est le grand exportateur de technologie nucléaire française. Lorsqu'Areva vous vend une centrale nucléaire, ils arrivent avec tout, leurs techniciens français, leurs cadres, leur personnel. Et lorsque le russe Rosatom vend une centrale nucléaire, ils sont présents dans une quinzaine de pays africains, par exemple, eh bien, ils commencent par développer un laboratoire national nucléaire, à échanger de la technologie et à former des techniciens locaux. Ça, c'est impensable pour les Français d'Aruba. Il y a à ce moment-là une remarque à faire sur votre pays. On refuse donc non seulement le nucléaire militaire que votre pays ne revendique pas d'ailleurs, mais le nucléaire civil. Mais à côté de ça, la France, elle, comme toutes les puissances occidentales, d'ailleurs, peut en disposer. Parmi les puissances occidentales, il y a également le nucléaire honteux ou hypocrite en Israël, puisque Israël a une technologie nucléaire civile, mais surtout est une puissance nucléaire non avouée. On parle de plus de 300 têtes nucléaires. Elles ont été fournies par la France et les États-Unis et elles sont installées sur des missiles de croisière modifiés qui sont sur des sous-marins de poche de la classe Dolphin qui sont fabriqués par l'Allemagne, qui participent directement donc à la dissémination nucléaire. Il y a une position donc hypocrite, c'est que le nucléaire serait réservé aux puissances militaires du bloc occidental. Il y a une dernière chose à constater au milieu de tout ça, c'est que la France ne peut être une puissance nucléaire que parce qu'elle est présente en Afrique. Elle est présente en Afrique dans le cadre de ce qu'on appelle la France-Afrique, la première France-Afrique dès les années 60. Il y avait déjà Areva, la deuxième France-Afrique et maintenant la troisième qu'on prépare. C'est avec l'uranium qui est pris au Niger en dessous, qui n'est pas payé en dessous des prix du marché, qui est pris également au Mali, que la France peut non seulement avoir sa propre industrie nucléaire, mais peut exporter celle-ci. La France est une grande puissance exportatrice de centrales nucléaires, alors qu'il n'y a pas une once d'uranium sur le territoire français. La Russie, par exemple, elle produit de l'uranium en Mongolie extérieure
à la frontière de la Chine, mais la France n'en a pas une once et donc, et pourtant, elle vend des centrales nucléaires. On est donc dans un discours hypocrite et la façon dont le discours de Macron est présenté, qui visiblement rend très fier les Français, il ne prend pas compte tout ce que moi j'appelle les non-dits du nucléaire français.
Un casse-tête à l'OTAN. Jamais l'OTAN n'a été une alliance au sens d'une libre association de partenaires visant à renforcer leur défense. Au contraire, dès sa fondation, tous ont été contraints d'accepter un commandement militaire éternel des États-Unis et de lui obéir. Dans la pratique, l'OTAN est une légion étrangère au service des Anglo-Saxons. Le Pentagone en premier, Whitehall en second. Cette violation flagrante du principe de souveraineté énoncé par la charte de l'ONU a contraint l'OTAN à pratiquer un discours biaisé. Sa noble et belle rhétorique ne doit pas masquer son management de voyous. Durant la guerre froide, les Anglo-Saxons utilisèrent un service secret de l'Alliance pour veiller à ce que les États membres acceptent toujours leur commandement. Ils constituèrent un réseau Stay Behind, prétendument pour résister en cas d'invasion soviétique. Cependant, ils n'utilisèrent ce réseau que pour éliminer toute velléité d'indépendance. Ils organisèrent des assassinats de dirigeants et suscitèrent des coups d'État chez leurs partenaires. Ces faits sont aujourd'hui enseignés dans les académies militaires anglo-saxonnes et ont été étudiés en détail par de nombreux historiens. Ce système perdure depuis la fin de la guerre froide sous une autre forme. Chaque État membre a été nommé d'autoriser par écrit les Anglo-Saxons à les espionner avec l'aide de leurs propres fonctionnaires, ainsi que l'a révélé Edward Snowden et qu'on a pu le constater encore le mois dernier au Danemark. Enfin, le commandement militaire anglo-saxon n'hésite pas à violer les statuts de l'Alliance lorsque cela l'arrange. Ainsi, c'est lui et non pas le Conseil Atlantique qui y était opposé qui a décidé le bombardement de la Libye et le renversement de Muammar Kadhafi. Le rapport de la commission de réflexion intitulé « OTAN 2030, unis pour une nouvelle ère » est très éclairant, plus par ce qu'il aurait dû contenir, mais ne dit pas que par ce qu'il explicite. En premier lieu, il insiste lourdement sur les valeurs communes, ce qui résonne comme une accusation contre les États-Unis et la Turquie. Il propose de non plus de réagir aux manquements constatés, ce qui est en pratique impossible contre Washington, mais de prendre des initiatives avant que ces valeurs aient été violées. Une manière comme une autre de faire du passé table rase et d'exiger que cela ne se reproduise plus. Il désigne la Russie comme le seul rival actuel de la Chine comme le prochain. Il récapitule toutes les opérations de l'OTAN dans sa zone géographique et hors de cette zone, à l'exception de la destruction de la Libye. On se souvient que cette décision avait été prise par le commandement anglo-saxon dans le dos du Conseil Atlantique. Cet oubli manifeste une rancœur. Or, traitant du Sud, le rapport souligne que lorsque les voisins de l'OTAN sont plus sûrs, l'OTAN est plus sûr. Une manière détournée de rejeter la doctrine Rumsfeld-Zebrowski de destruction systémique des structures étatiques du Moyen-Orient élargi et donc de remettre en cause la destruction de la Libye. Rappelons qu'en 2011, au moment de cette guerre, Muammar Kadhafi était devenu un allié des États-Unis. Il avait été félicité par le président Bush, fils, notamment pour avoir renoncé au nucléaire et avait accepté de confier à Mahmoud Djibril la réorganisation de son économie. Or, du jour au lendemain, Djibril devint le chef de l'opposition et l'OTAN somma Kadhafi de partir. Concernant le contrôle des armements, la Commission zappe le traité de l'ONU sur le désarmement nucléaire qu'elle a par ailleurs fermement condamné. Elle renvoie aux travaux de Pierre Armel en 1967 et à l'affirmation du double objectif de la dissuasion et de la détente. Là encore, il s'agit d'une condamnation de la dérive actuelle de l'organisation qui renforce son arsenal tout en rejetant les propositions du président Poutine en matière de désarmement. À propos des ressources énergétiques, il pose comme une évidence le droit de l'OTAN à assurer son plein accès aux ressources d'hydrocarbures dans le monde, quels que soient les besoins des autres puissances. Concernant la guerre de l'information, la commission de réflexion invite l'organisation à s'appuyer sur les citoyens. Sans remettre en cause l'appel d'offres du 15 octobre 2020, elle approuve les objectifs du Centre d'excellence des communications stratégiques de Riga, mais en conteste donc les méthodes. Traitant de l'unité de l'Alliance, la Commission souligne l'engagement de tous à défendre un membre lorsqu'il est attaqué selon l'article 5. Elle explique alors, faisant allusion au comportement de la Turquie, que cet engagement ne pourra être tenu que si chaque État membre respecte strictement les valeurs communes de l'organisation. Depuis la publication du rapport, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu dire à ses homologues tout le mal qu'il pensait de la Turquie. Il rendait ainsi possible une exclusion d'Ankara de l'Alliance, voire une éventuelle guerre contre lui. Non, sans humour, la Commission suggère la création d'un centre d'excellence pour la résilience démocratique. À propos du fonctionnement de l'Alliance, la Commission tente de prévenir une nouvelle violation des statuts de l'Alliance sous prétexte d'une urgence, comme ce fut le cas pour la destruction de la Libye. Elle préconise donc des consultations le plus en amont possible, notamment avec l'Union européenne et les partenaires de la zone Indo-Pacifique susceptibles d'adhérer à l'OTAN. En conclusion, malgré les pressions exercées sur des membres de la commission consultative, celle-ci n'a pas éludé les vrais problèmes, mais s'est abstenue de les expliquer. Chacun est conscient que l'Alliance est un outil de domination des...
Thank you.